Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Mathieu Arnold, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, spécialiste, s'il en est, de Martin Luther, à qui il a consacré il y a peu une remarquable biographie. Il est mon invité aujourd'hui pour la présentation d'un livre qui vient de sortir aux éditions Presse universitaire de Strasbourg dans la collection Écriture et Société intitulé Luther à Worms 1521-2021, les événements et leur réception. C'est un livre que vous avez co-dirigé, Mathieu, et qui est en fait les actes d'un colloque tenu le 9 juin 2021 dans un contexte compliqué, celui de la pandémie du Covid-19.
Oui, Jean-François Covard, merci beaucoup de cette invitation. Tout à fait, il s'agissait de célébrer la comparution de Luther à Worms en 2021. Et puis nous avons été dans ces événements extrêmement compliqués. On ne savait pas où aller, les universités étaient fermées, les gens ne pouvaient pas sortir. Je parle des spécialistes étrangers que nous voulions inviter. Et puis nous avons finalement décidé de tenir coûte que coûte cette manifestation, mais de la tenir en distance. Ce n'était pas évidemment ce qu'il y avait de mieux à faire. La convivialité n'était pas au rendez-vous, mais en tout cas la qualité des conférences y était. Et puis 2 ans plus tard, nous avons pu donner une forme de publication à ce colloque qui, heureusement pour moi, reste jusqu'à aujourd'hui le seul tenu intégralement sous cette forme.
Avant de parler de l'événement que fut la diète de Worms en 1521, je voudrais que l'on remonte un tout petit peu le temps ensemble, Mathieu, et voir les événements qui se sont succédés à partir du 31 octobre 1517 et la publication des fameuses 95 thèses de Martin Luther, qui, selon la tradition, ont été placardés sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Luther est un moine, augustin, qui enseigne depuis peu la théologie à la jeune université de Wittenberg. Nous sommes dans l'électorat de Saxe. En quoi consistent ces 95 thèses ?
Merci beaucoup de rappeler en effet les 95 thèses, parce qu'on peut dire que entre 1517 et Worms 1521, la diète de Worms, c'est finalement la clôture de cet épisode fameux des 95 thèses. Donc ces 95 thèses discutaient une question qui avait le droit d'être discutée à l'époque, la question des indulgences et notamment le fait de savoir si elle valait non seulement pour l'ici-bas, c'est-à-dire ces remises des peines qui étaient accordées aux pénitents normalement une fois qu'ils étaient contrits et qu'ils s'étaient confessés à un confesseur, et ce reliquat de peine qui souvent ne pouvait pas être accompli uniquement ici-bas, mais qui devait aussi l'être dans l'au-delà et donc au purgatoire. Et une question qui était débattue, c'était de savoir si les indulgences valaient aussi pour le purgatoire. Et l'autre grande question était de savoir qui pouvait en disposer, même si, selon depuis Thomas d'Aquin, la réponse était assez simple, c'était le pape en tant que chef de l'Église qui pouvait en disposer et donc attribuer leur mérite à ceux qui n'en avaient pas assez et qui pour cette raison étaient au purgatoire.
Alors le purgatoire, c'est un concept théologique relativement récent, en 1517.
Tout à fait, Jacques Le Goff a bien montré le développement du purgatoire tout au long du Moyen-Âge, ou plus exactement l'infernalisation du purgatoire, puisque purgatoire qui repose sur des textes deutérocanoniques, eh bien, c'est petit à petit, enfin, le feu purgatoire, donc l'adjectif, c'est petit à petit transformé en substantif, le purgatoire, et puis en même temps, eh bien, alors qu'au départ, c'était simplement un lieu de purification plutôt neutre, il est devenu, vers la fin du Moyen-Âge, donc les siècles qui précèdent le début des années 1500, il s'est infernalisé, on peut dire qu'il y a trois lieux, le paradis, l'enfer et le purgatoire, mais le purgatoire n'est plus un lieu neutre, intermédiaire.
C'est l'antichambre des enfers.
Voilà, c'est ça, c'est un enfer bis. La seule différence avec l'enfer, c'est qu'on n'est pas censé y demeurer à jamais, mais quand on dit qu'on est condamné à des centaines de milliers d'années de purgatoire, avouez que, selon ma perception, ça fait une différence assez faible avec le fait d'y être condamné éternellement, surtout à une époque où l'espérance de vie, c'est une quarantaine d'années.
Dans un précédent ouvrage, il y a maintenant quelques années, où vous interprétiez les 95 thèses de Martin Luther, vous expliquiez fort savamment, Mathieu Arnold, que Luther n'était pas hostile au principe même de l'indulgence, mais à son économie, à son commerce.
Voilà, c'est cela. Disons qu'il défendait, comme un certain nombre d'autres théologiens, à commencer par exemple par Tauler, une conception plutôt rigoureuse de la pénitence, qui disait les indulgences, on peut les tolérer, mais c'est plutôt pour les chrétiens les plus fragiles, il vaut mieux expier par des œuvres bonnes. Il ne faudrait pas que les indulgences dispensent des œuvres, et notamment dispensent de la charité envers le prochain. Mais comme vous le dites, ce n'est pas tant le principe même de l'indulgence que son application, son accroissement, son extension à l'au-delà qu'il met en question.
Alors, bien évidemment, Rome ne peut pas rester inerte par rapport à cette attitude de défiance de Martin Luther. La réaction va venir d'un cardinal, Cajetan, qui va rencontrer Luther. Nous sommes à Augsbourg au mois d'octobre 1518.
Tout à fait. Alors, entre-temps, c'est vrai que l'Église n'avait pas réagi tout de suite. L'autre cardinal auquel les thèses avaient été envoyées, Albert de Brandebourg, lui n'avait pas tout de suite réagi. Et puis, au lieu de réagir en tant que pasteur, en rassurant Luther, il avait simplement transmis les thèses à Rome. Il y avait ensuite eu quelques escarmouches avec des théologiens de la Curie qui avaient d'emblée accusé Luther d'attaquer le pouvoir du pape, donc qui avaient déplacé la question des indulgences sur la question du pouvoir du pape, avec Cajetan, qui est un théologien de haute volée. Le débat portera principalement sur qu'est-ce que le trésor de l'Église, puisqu'à la base des indulgences, vous aviez ce qu'on appelait le trésor des mérites du Christ et des saints, c'est-à-dire les œuvres que le Christ et les saints avaient accomplies en surnombre et qui donc n'étaient pas perdues, mais abondaient un trésor spirituel dans lequel, par voie de compensation, l'Église pouvait puiser pour justement donner ses œuvres, mais alors contre des indulgences, donner ses œuvres à ceux qui n'en avaient pas fait assez. Et donc contre Cajetan, Luther défendra l'idée que le trésor de l'Église, enfin il insistera sur cette affirmation qu'on trouve déjà dans les 95 thèses, ce n'est pas ce fameux trésor des mérites du Christ et des saints, mais c'est l'Évangile.
Le 15 juin 1520, par la bulle Exsurge Domine, le pape va menacer formellement Luther d'excommunication. Je précise pour nos auditeurs qu'une bulle est un décret pontifical. Luther maintient sa position. Il refuse de se rétracter et il commet un acte particulièrement solennel en brûlant la bulle. Nous sommes à Wittenberg le 10 décembre 1520.
Oui, tout au long de l'année 1520, qui est vraiment une année cruciale, les événements se sont précipités. Luther a rédigé un certain nombre de traités qui ne pouvaient pas plaire à Rome, même si lorsque la bulle le menaçant d'excommunication paraît le 15 juin, les traités les plus vigoureux de sa plume, notamment le traité sur la papauté de Rome qui conteste l'idée que le pape soit de droit divin le chef de l'Église, n'avait pas encore paru, mais il y avait un certain nombre d'affirmations qui avaient déjà été condamnées. On donne à Luther 60 jours pour se rétracter, mais en fait, il n'aura connaissance de cette bulle qu'à l'automne de 1520. Il la tiendra tout d'abord pour un faux, pensant pendant très longtemps que Léon X serait sensible à ses arguments. Et comme vous le soulignez, une fois que, il sait que cette bulle est authentique, il a une réaction très vive. Il s'érige presque en anti-pape, si l'on peut dire, puisque lui-même brûle la bulle et le droit canon.
Les événements se succèdent rapidement, puisque le 3 janvier 1521, la bulle Decet Romanum Pontificem prononce l'excommunication de Luther. Mais Luther a déjà acquis une certaine notoriété au sein de la chrétienté occidentale et il est soutenu en particulier par un homme de poids, l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage.
Oui, on ne saurait, quelle que soit la justesse des arguments de Luther, quelle que soit la force de conviction, son affaire se serait sans doute terminée de manière prématurée et tragique s'il n'avait pas été soutenu, comme vous le soulignez, par ce prince qui était à la fois un diplomate expérimenté, qui était quelqu'un qui avait contribué à ce que Charles Quint fût élu roi des Romains en 1519, donc empereur contre François Ier. C'était un homme politique de poids. Et donc, il est parvenu à faire en sorte que Luther soit néanmoins, bien qu'excommunié, que les pouvoirs publics, donc l'empereur, n'applique pas simplement la sentence, mais qu'il soit encore auditionné en marge de la diète de Worms. Toute la question étant de savoir, et l'empereur et l'électeur ne mettaient sans doute pas la même chose sous ce vocable, qu'est-ce que ça voulait dire entendre Luther? Est-ce qu'il s'agissait simplement de lui signifier sa condamnation ou est-ce que, comme Luther et l'électeur l'espéraient, on aurait enfin le débat théologique auquel Luther aspirait depuis plus de 3 ans?
Mathieu Arnold, nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent et je vous retrouve ensuite pour poursuivre cette conversation à propos de Luther à Worms. C'est Gérard Lenormand qui va nous accompagner en chanson tout au long de cette émission. Nous écoutons un titre de 1975, probablement l'un de ses plus grands succès, La ballade des gens heureux.
Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin dame de banlieue. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Mathieu Arnold, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, à propos d'un ouvrage qui vient de sortir aux presses universitaires de Strasbourg dans la collection Écriture et Société, Luther à Worms, 1521-2021, les événements et leur réception. Cet ouvrage, Mathieu, vous l'avez co-dirigé. Je précise à nos auditeurs qu'il s'agit des actes d'un colloque international qui s'est tenu le 9 juin de l'année 2021. Alors venons-en au cœur de notre sujet, c'est-à-dire à la diète de Worms. Précisons qu'une diète, c'est un parlement, le parlement impérial. Et Luther va maintenir sa position. Nous sommes le 18 avril 1521. Il refuse absolument de se rétracter. Et il en appelle, c'est très important, à sa conscience. Pouvez-vous, Mathieu, développer ce concept de conscience qui est quelque chose qui n'est pas encore très commun en ce début du XVIe siècle ?
Oui, merci beaucoup de souligner cet aspect de la comparution de Luther. Donc il est convoqué tout d'abord le 17 avril, et à ce moment-là, il a la surprise qu'on lui demande simplement si les livres qui sont rassemblés, ils sont nombreux, sont les siens, et s'il est disposé à les révoquer. Alors que, comme je l'ai dit, il s'attendait visiblement à un débat théologique de fond. Il demande à ce moment-là, sans doute soutenu par les juristes saxons, un délai pour préparer, disons, sa réponse. Ce délai lui est accordé, et le lendemain, il revient avec une réponse structurée. Il distingue les différents écrits qu'il a rédigés en plusieurs catégories, des écrits les plus pastoraux aux plus polémiques, mais il ne renie pas même les plus polémiques. Et puis, comme vous l'avez dit, il en appelle à sa conscience, mais à la conscience qui est captive de la parole de Dieu. Et toute la discussion entre les théologiens est de savoir si Luther a eu en vue une compréhension théologique de la conscience qui était personnelle, ou si au contraire sa conception de la conscience était une conception traditionnelle, puisque, eh bien, dans l'usage courant de la langue à l'époque déjà, eh bien, on pouvait se faire des reproches dans sa conscience en raison de telles actions, ou au contraire, on pouvait avoir bonne conscience. Et Luther, ce terme de conscience, il l'utilise déjà dans ses écrits comme son commentaire sur les psaumes débuté en 1519. Mais comme je l'ai dit, ce qui me paraît important chez lui, c'est cette idée de la conscience captive, conscience captive de ou dans la parole de Dieu, ce qui signifie pour lui qu'il s'en remet à la validité inconditionnelle de la parole de Dieu qu'il n'a cessé d'opposer tout au long des années 1517-1518 à la question de la tradition de l'Église. Donc il oppose la parole et la tradition, et donc il insiste sur le fait que sa conscience est témoin à la fois des ouvrages qu'il a rédigés, mais donc aussi que cette conscience, eh bien, lui interdit, parce qu'elle le renvoie à la parole, de renier ses ouvrages. Alors, il ne faut pas confondre ce recours à la conscience avec eh bien, ce qui a pu être écrit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, à savoir, ce n'est pas le recours à la conscience errante, n'est-ce pas ? C'est le recours à la conscience captive de la parole de Dieu. Si Luther ne renie pas, c'est parce qu'il estime, non pas qu'on pourrait tolérer toutes les opinions, mais c'est parce qu'il estime que lui a raison, que son opinion est fondée dans et sur la parole.
L'empereur Charles Quint va lui aussi s'exprimer à l'occasion de la diète de Worms, et il va se placer résolument en défenseur de la foi catholique.
Oui, alors donc ce que nous avons voulu faire dans cet ouvrage, ce n'est pas seulement donner la parole à Luther, mais un peu comme dans l'ouvrage sur les 95 thèses quelques années plus tôt, montrer aussi combien des contemporains de Luther, selon leur logique, et je dirais là en toute bonne conscience, pouvaient ne pas partager les conceptions de Luther parce qu'ils partaient d'autres prémices. Donc c'est un ouvrage à dimension écuménique, aussi d'ailleurs par ceux qui ont contribué. Donc la lettre, la déclaration de Charles Quint, elle est commentée par Marc Linhart, lui recourt à sa tradition familiale. Il rappelle, eh bien, que ses prédécesseurs ont toujours été des empereurs très chrétiens. Il affirme à la fois son autorité, mais aussi, comme je l'ai dit, le lien très fort de ses ascendants à la religion. Et donc, il se fait, contre Luther, le défenseur de la foi catholique, comme d'ailleurs, lors de son couronnement en octobre 1520 à Aix-la-Chapelle, il avait promis de défendre la foi catholique et l'Église. Donc, cette déclaration de Worms est une conséquence tout à fait logique du rôle que Charles Quint a pleinement conscience de jouer.
Le 8 mai 1521, l'édit de Worms place Martin Luther au banc de l'Empire. Désormais, toute personne est en droit de se saisir de lui. Il y a donc urgence à le protéger, et c'est ce que va faire Frédéric le Sage en le faisant enlever et en l'enfermant, avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment, au château de la Warburg, où Luther entamera sa traduction de la Bible en langue allemande.
Oui, Frédéric, alors cette manœuvre correspond tout à fait au tempérament de Frédéric le Sage, qui était connu comme quelqu'un de temporisateur, et donc il se dit que le plus sûr est de mettre Luther à l'abri, en attendant de voir eh bien, comment les choses vont évoluer. Alors j'ajoute que l'édit de Worms n'a jamais été promulgué officiellement en Saxe électorale, mais en tout cas, il est vrai que cet édit aura pour conséquence que Luther, son existence durant, à partir de 1521, ne quittera plus la Saxe électorale.
Nous allons marquer une deuxième pause musicale dans cette émission passé-présent et je vous retrouve ensuite Mathieu Arnold. C'est toujours Gérard Lenormand qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1976, Michel.
J'avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday. Les jeudis après-midi on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions, toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moquent de moi.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Mathieu Arnold, professeur à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, pour un ouvrage qui vient de paraître aux presses universitaires de Strasbourg dans la collection Écriture et Société, Luther à Worms, 1521-2021, les événements et leur réception dans ce livre qui constitue les actes d'un colloque international qui s'est tenu le 9 juin 2021. Vous apportez, Mathieu Arnold, une contribution intitulée « La diète de Worms dans la correspondance de Martin Luther ». Comment Luther a-t-il traité de ce sujet ?
En effet, les premiers échos de la, puisque nous traitons de la réception aussi de la diète de Worms jusqu'au XXe, voire début du XXIe siècle, les premiers échos eh bien, de ces événements, on les trouve dans la correspondance de Martin Luther. Alors, les premiers avis de Luther étaient un peu mitigés. D'une part, il avait été prêt, en se rendant à Worms, à subir le martyre. Or, cela ne s'est pas produit. Et d'autre part, et surtout, il était extrêmement frustré de constater que le débat théologique qui l'attendait depuis longtemps, qui avait été avorté entre Cajetan et lui, eh bien, n'avait pas eu lieu. Et donc, il exprime aussi dans sa correspondance son insatisfaction dès les jours suivant la diète de Worms. Lorsqu'il disposera d'un peu plus de recul, il fera un autre usage des événements de Worms. Je pense par exemple durant la diète d'Augsbourg en 1530 ou lors des colloques religieux entre les protestants et les catholiques dans les années 40, il se référera à sa propre expérience pour inciter ses partisans, notamment son collègue Philippe Mélenchon, à ne rien céder à la partie adverse.
Martin Luther est un polygraphe tout à fait remarquable. Si mes souvenirs sont exacts, il nous laisse plus de 600 textes. Parmi eux, il y a les propos de table qui permettent d'entrer à la fois dans sa conception théologique, mais aussi dans son intimité de vie à Wittenberg. Que dit-il dans ses textes de cet épisode de la diète de Worms ?
Merci beaucoup de rendre attentif aux propos de table, qui sont en effet un genre tout à fait singulier. Alors, je dirais qu'il y a deux écoles interprétatives des propos de table. Nous avons actuellement une tradition allemande qui représentait la par Volker Lepin, un des grands biographes de Luther, qui a tendance, disons, à se méfier beaucoup des propos de table et à dire que les propos de table parle beaucoup plus des preneurs de notes, voire de ceux qui ont collationné ensuite ses propos, que de Luther lui-même, et qu'en tout cas, il donne très peu d'indications historiques fiables. On pourrait presque dire, pardonnez-moi la comparaison, alors je ne veux pas non plus comparer de grandes choses les évangiles avec les propos de table qui sont des choses beaucoup plus petites, mais on a un petit peu la même méfiance envers les récits des propos de table qu'on pouvait avoir il y a 100 ans, de méfiance envers les récits des évangiles, mais en disant mais ils ne renseignent pas tant sur l'histoire de Jésus que sur l'Église qui a suivi.
Une précision, Mathieu, si vous le permettez, excusez-moi de vous interrompre, mais il faut remettre ces propos de table dans leur contexte. Luther vit à Wittenberg dans une vaste maison et il accueille à demeure un certain nombre de ses étudiants. Et donc autour de la table, il n'y a pas que la famille au sens premier du terme, mais aussi la famille intellectuelle, celle que Luther enseigne.
Oui, tout à fait, vous faites bien de rappeler.
C'est ce qui donne, tout l'intérêt à ces propos.
Tout à fait. Alors, ces propos de table ne sont malheureusement pris en note qu'à partir de la fin des années 20, début des années 30 et jusqu'à la fin de la vie de Luther. Ils sont souvent pris en note par plusieurs preneurs de notes, ce qui fait qu'à mon sens, à partir de ce qu'on sait des présupposés de ces preneurs de notes, certains étaient plus allergiques aux propos un peu grossiers de Luther, ils avaient tendance à les lisser, d'autres n'aimaient pas Catherine de Bora, etc. Donc, on connaît un petit peu leur tic, et on peut, à mon sens, très bien, en comparant plusieurs propos qui portent sur le même sujet, pris par des preneurs de notes différents, à peu près voir ce que Luther aurait pu dire. En tout cas, dans ses propos de table, il insiste là aussi sur le fait qu'il avait bien, à Worms, établi une distinction entre ces différents types d'ouvrages. il insiste sur sa volonté de se fonder sur la parole de Dieu, mais alors il est vrai que la tradition ultérieure a pu insérer ses propos de table dans un contexte qui leur donnait encore une autre dimension. Mais je trouve que c'est une source d'appoint tout à fait intéressante par comparaison avec les lettres. Dans les propos tables aussi, Luther invoque l'idée que lorsqu'il s'est rendu à Worms, il était prêt à le faire, même s'il y avait autant de diables que de tuiles sur les toits des maisons de la ville. Donc on a quand même des parallèles assez intéressants entre la correspondance très proche des événements et les propos de table à une décennie de distance.
Mathieu Arnold, que peut-on dire de l'évolution de la perception et de l'interprétation de la diète de Worms au fil du temps, c'est-à-dire entre le XVIIe siècle et aujourd'hui ?
Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que pour nous, tant les 95 tests que la diète de Worms, c'est un événement particulièrement important, notamment à cause de ce recours à la conscience, de ce face-à-face entre Luther et l'empereur. Mais dans un certain nombre de biographies du XVIe et du XVIIe siècle, cette importance ne paraît pas encore. Et on peut dire que c'est à partir du XIXe siècle, lorsqu'on a une image plutôt héroïque et souvent nationaliste de Luther qui se propage en Allemagne, une image également très confessionnelle, l'image protestante de Luther, que dans le cadre de cette héroïsation de Luther, on met encore plus l'accent sur la diète de Worms. Alors on le voit aussi au XXe siècle, et c'est une des particularités du volume de ce colloque, c'est qu'on a un auteur, Johannes Schilling, qui a carrément examiné tous les films qui ont été consacrés à Luther, il n'y en a pas tant que cela, mais depuis les films muets, et qui ont vu comment, là encore, le rôle de Luther à Worms ne manquait jamais d'être souligné dans ces films. Donc à côté des thèses, dans les films du XXe siècle, l'épisode de Worms est un épisode tout à fait capital. Et puis actuellement, dans les biographies qui sont consacrées à Luther, on a de nouveau tendance, à remettre cet événement à sa juste place, à ne plus faire nécessairement de Luther un héros, à souligner le rôle important de Frédéric Le Sage, comme vous l'avez dit, a souligné également la vraie piété de Charles Quint. Donc on a dépassé cette image héroïque de Luther dans les travaux scientifiques actuels.
Le colloque s'intéresse à la filmographie, mais aussi à l'iconographie. Et l'ouvrage, d'ailleurs, restitue un certain nombre d'illustrations tout à fait éloquentes. Qu'en est-il de la transcription à travers l'iconographie de cet événement de Luther à la diète de Worms au fil des siècles?
Merci beaucoup de souligner le rôle des images. Il est vrai que la plupart des écrits de Luther ont aussi été accompagnés d'illustrations qui ont accentuer leur force. Alors les premiers écrits mettent en avant des portraits de Luther. On voit un Luther à la colombe qui manifeste le fait qu'il est au bénéfice de l'Esprit Saint. Vous avez aussi très rapidement des écrits qui se mettent à mettre sur le même plan la comparution de Luther à Worms et la passion du Christ, et qui sont là aussi marqués souvent par des gravures antipapistes assez fortes. Et puis vous avez au XIXe siècle un certain nombre de tableaux, d'huiles ou de gravures entre d'ailleurs choisi une pour illustrer ce volume qui met clairement Luther debout face à l'empereur et au collège des sept électeurs. Donc ces images aussi participent de la monumentalisation de Luther. Et puis l'ouvrage se conclut, enfin le chapitre sur les images, par un détournement évidemment assez problématique de l'événement de Worms. C'est lorsque en 2017, eh bien, une affiche électorale du parti NPD reprend un portrait de Luther par Cranach et puis y ajoute la citation extraite du discours de Luther. Je ne pourrais pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. Mais là, dans cette image, c'est « Je voterai NPD, je ne pourrais pas faire autre chose ».
Rappelons ce qu'est le NPD, Mathieu.
Donc, le NPD, donc, c'est ce parti néo-nazi qui, notamment, connaît de grands succès dans l'Est de l'Allemagne.
L'iconographie s'est très tôt saisie de la personne de Martin Luther en le glorifiant.
Tout à fait, l'iconographie, on le voit, des certaines impressions des 95 thèses dans les années 1518, des écrits de 1520. Oui, donc là aussi, ça contribue à l'héroïsation de Luther. C'est d'ailleurs problématique parce que on devrait mettre la parole en évidence et pas forcément l'individu Luther, mais c'est vrai que Luther, très tôt, sa popularité a aussi tenu à son message, mais aussi à l'iconographie qu'il a soutenue.
Je me permets une dernière question, Mathieu, qui sort quelque peu du champ strict de l'étude proposée par le colloque que nous venons d'évoquer. Mais quelle fut la perception de la diète de Worms en Alsace?
Alors ça, c'est une... Tout ce que je peux vous dire, c'est que si Martin Bucer avait réussi dans ses entreprises en 1521, vous savez qu'il était réfugié à la Ebernburg chez le chevalier Franz von Sickingen. Il avait essayé de détourner à Oppenheim Luther de se rendre à la diète pour avoir des discussions, notamment avec le confesseur de l'empereur. Et d'ailleurs, dans ses propos tables, Luther se vante justement de n'avoir pas cédé aux sirènes de Bucer, de ne s'être pas détourné de son chemin, mais de s'être rendu à Worms. Alors, il est vrai que dans la correspondance des réformateurs strasbourgeois, qui est d'ailleurs très lacunaire pour l'époque, on trouve bien sûr beaucoup moins de mentions. Alors, le sort de Luther est suivi de manière extrêmement attentive, mais on trouve moins de mentions de cette diète qu'on ne peut le trouver dans la correspondance de Luther lui-même.
Merci beaucoup, Mathieu Arnold, pour cette conversation tout à fait riche à propos ces actes du colloque du 9 juin 2021 consacré à Luther à Worms. Je rappelle le titre du livre que vous pouvez trouver aux presses universitaires de Strasbourg dans la collection Écriture et Société, Luther à Worms, 1521-2021, les événements et leur réception. C'est en chanson que nous allons nous quitter après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. C'est toujours Gérard Lenormand, peut-être l'un de ses premiers succès, c'était en 1972, Les Matins d'hiver.
Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, Nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant. Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. Nous retrouvions chaque jour notre place et l'on ne pouvait plus se parler. Puis bercés par les vagues d'une douce chaleur que nous prodiguait le vieux poêle, nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs vers des plages où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer. Je me souviens de l'odeur fade et chaude de notre classe calfeutrée, des premières lueurs pâles de l'aube à travers les vitres givrées. Je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutaient. Et pendant les leçons, dans mon coin, je rêvais à désirer.